L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Françoise El-Khoubi, présidente de l'association Les Routes du Judaïsme Rhénan, à propos d'un circuit audio-guidé en 5 langues et même en hébreu autour de la vie juive à Strasbourg depuis le Moyen-Âge. Françoise El-Khoubi, bonjour.
Bonjour.
Ravie de vous recevoir. Très active hein, dans la culture juive, ici à Strasbourg et en Alsace. Je n'avais pas encore eu l'occasion de vous rencontrer, donc déjà double plaisir aujourd'hui de vous accueillir dans nos studios. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Les Routes du Judaïsme Rhénan ? Comment est-ce que cette association a été créée ? Quel est son objectif ?
Alors, l'association a été créée au départ en 2004 sous la présidence de Freddy Raphaël et j'insiste là-dessus sur la base transfrontalière. Le mot Rhénan n'est pas simplement pour faire joli, mais c'est une réalité. Et nous comptions monter un projet très ambitieux avec le soutien de la région Alsace à l'époque et le Land du Bas-Württemberg. Et nous avions commencé à progresser et il se trouve qu'il y a eu un changement de ministre-président du Land du Bas-Württemberg et que le suivant, celui qui est arrivé, n'était absolument plus intéressé par ces sujets. Donc nous avons mis l'association en sommeil et en fait nous avons repris l'idée en 2018, toujours avec Freddy Raphaël, que je ne présente pas, je pense que les auditeurs le connaissent bien, professeur émérite à l'Université de Strasbourg en sociologie et surtout grand spécialiste de tout ce qui concerne le judaïsme alsacien sous toutes ses facettes. Et nous avons réinstallé l'association. Donc Freddy Raphaël en était le président et j'en étais la secrétaire générale. Alors, cette association, toujours rhénane, nous avons j'ai une vice-présidente en la personne de Christiane Vallet-Schneller, qui est la fondatrice présidente de la Maison Bleue, qui est une maison de mémoire juive à Breisach, donc du côté allemand du Rhin. Et notre association a pour vocation de valoriser, de faire connaître au plus grand nombre ce qui était et ce qui est toujours l'histoire des Juifs en Alsace et dans la vallée du Rhin supérieur par différentes actions, dont celle dont je vais parler, que nous venons d'achever.
Alors la connaissance du patrimoine juif rhénan, donc un patrimoine culturel, mais également linguistique, artistique, même architectural, et donc patrimoine immatériel, l'importance également, cette transmission. Comment est-ce que vous agissez aujourd'hui pour faire connaître au plus grand nombre, ici dans le bassin rhénan, ce patrimoine ?
Alors, je remonte un peu en arrière. En fait, en 1996, une personne qui était à l'époque présidente du Bnei Brit, Madame Claude Blore, a eu l'idée d'organiser des portes ouvertes de différentes synagogues en Alsace, puisqu'il y en a énormément et que, y compris les habitants du village, n'avaient jamais pu rentrer dans ces bâtiments. Et donc, elle s'est associée avec, à l'époque, ADT, qui était l'agence touristique du Bas-Rhin. Et l'événement, chaque année, a pris de l'ampleur pour devenir, en fait, un événement européen et qui a débouché sur la création d'une association européenne de préservation et de valorisation du patrimoine juif européen qui a obtenu, en 2004, le label d'itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. Et cette association rejoint... réunit en fait toute une série de membres qui représentent des routes un peu comme la nôtre dans différents pays européens. Ce qui nous donne notre association l'occasion de rencontrer et d'échanger avec d'autres représentants d'autres pays qui sont placés devant les mêmes objectifs et responsabilités dans des conditions parfois différentes, comme en Pologne ou en Ukraine ou en Moldavie ou enfin etc. Alors comment nous faisons donc il y a ces journées qui sont devenues cette journée qui était le premier dimanche de septembre qui est devenue les journées maintenant. Oui. Bon, c'est un autre groupe qui était le groupe de base avec le Bnébrit et une petite organisation JECJ Alsace mais qui organise et fédère
les journées européennes de la culture juive.
Voilà, donc ça, là, et là, chaque année, il y a un thème qui est développé. Cette année, c'est le thème de la famille. L'année dernière, c'était le thème de la mémoire. Et Madame Claude Blore, qui est plus que nonagénaire, est toujours active et c'est toujours elle qui est un peu le chef d'orchestre de l'opération à l'échelle européenne, puisqu'elle est coordonnée, en fait, par l'AEPG. Alors, à notre niveau, les routes, j'ai la chance, grâce à Marc Lévy, directeur de ADT, qui est devenu Alsace Destination Tourisme, de bénéficier de l'aide d'un de ses collaborateurs, à temps partiel bien sûr. Et petit à petit, nous développons des outils qui s'adressent à des publics déjà dédiés à la transmission. Par exemple, l'an dernier, nous avions organisé 4 séances de webinaires pour inciter des guides conférenciers, des personnes, des agents des offices de tourisme ou simplement des bénévoles qui accueillent des personnes localement où il y a du patrimoine, à mieux connaître ce que c'est que le judaïsme, l'histoire des juifs en Alsace, les différents sites du patrimoine, etc. Et nous avons aussi fait réaliser une vidéo de 5 minutes pour faire la promotion du patrimoine juif alsacien. Alors là, effectivement, c'est plus du patrimoine bâti que du patrimoine
immatériel,
effectivement. Mais le patrimoine immatériel, on est plus dans des rencontres, ce que pour le moment, nous n'avons pas encore... mais bon, tout le monde essaye de travailler ensemble de manière à construire un projet plus global. Alors, je précise que ces deux actions que nous avons menées l'année dernière ont bénéficié d'un soutien du ministère de la Culture, ce qui nous a permis de financer ces projets.
Alors, aujourd'hui, une nouveauté, on en parlait en introduction, donc à l'initiative de l'association Les Routes du Judaïsme Rhénan, un circuit audio guidé sur la plateforme de visite en ligne Easy Travel et qui permet aux visiteurs de découvrir la vie juive ici à Strasbourg. Alors, une forme d'autonomie pour le visiteur qui télécharge cette application et ça lui permet de visiter, d'avoir effectivement une voix dans différentes langues, 5 plus l'hébreu, mais également des images, des lieux qui sont représentés, qui n'existent peut-être plus, ou des endroits où il ne peut pas pénétrer, comme le mikvé par exemple de la rue des Juifs.
Tout à fait. Alors, nous avons pu mener cette action d'abord grâce à l'association européenne, la EPJ, qui travaillait avec une agence numérique européenne qui était basée à Amsterdam et qui développait ce type de produits, d'action et qui le proposait aux différentes routes justement en Europe financées par l'Union européenne et donc j'ai profité de cette opportunité pour pouvoir développer être pilote de circuit en Alsace. Alors effectivement il y a celui de Strasbourg que nous allons développer. Il y en a un autre aussi qui est à Bichwiller et qui est très original puisqu'il est dédié à Claude Vigée et il reprend en fait tous les lieux à Bichwiller dont parle Claude Vigée dans ses livres et les textes qui sont d'explication ou de mémoire sont en fait des extraits des livres de Claude Vigée.
Ses
propres paroles. Donc, on est vraiment sur les traces de Claude Vigée dans sa vie de jeunesse à Bichwiller. Ensuite, pour revenir à Strasbourg, donc j'ai eu la chance de pouvoir associer autour de la table différents partenaires strasbourgeois qui sont actifs, des professionnels au niveau du tourisme et de la médiation culturelle, à savoir l'Office de tourisme de Strasbourg, Alsace Destination Tourisme, le cinquième lieu et les musées de Strasbourg et le Carole Vénère de la Céjal, de la Société d'études du judaïsme qu'on appelait la Chial, je crois que là.
Alsace-Lorraine. Voilà. Alors concrètement, le circuit ici à Strasbourg, alors juste pour préciser, c'est une application totalement gratuite pour le visiteur, c'est important de le dire également,
absolument.
Donc ça peut profiter au plus grand nombre. Donc le circuit à Strasbourg, 17 lieux à visiter partent de la vie juive, vous le disiez, au Moyen-Âge, dont on trouve les premières traces. Donc, à Strasbourg, qui était hors de France, on retrouve une vie moyenâgeuse des Juifs qu'il n'y avait pas dans le reste du territoire français à l'époque.
Absolument. Strasbourg faisait partie des communautés juives ashkénazes de la vallée rhénane. Et réunissait, selon le voyageur Tudel, des familles, des érudits, des familles riches, et d'autres sans doute un peu moins, et qu'on retrouvait essentiellement près de la cathédrale, dans la rue des Juifs, on a retrouvé des traces. Alors, pour revenir au circuit, il commence en fait à la passerelle des Juifs qui enjambe le canal du Faux-Rempart en regardant vers la place de la République, puisque c'est là qu'on va se rappeler que le cimetière juif médiéval se trouvait sur la place de la République. Et malheureusement, c'est là que s'est déroulé le massacre de la Saint-Valentin.
En 1349, c'est ça.
En 1349, suite à l'accusation des Juifs d'avoir empoisonné les puits, ce qui a provoqué l'épidémie de la peste noire. Et donc, nous montrons la photo d'un tableau qui représente ce massacre et qui se trouve au musée historique. Et puis ensuite, nous rappelons aussi que par la suite, les Juifs ont été interdits de séjourner, de résider à Strasbourg dans la ville, et que donc ils avaient le droit d'y commercer, et que pour leur rappeler que c'était l'heure de sortir de la ville, on sonnait du haut de la cathédrale le Gruselhorn, cette corne en métal qui ressemble à un chauffard et qui est un objet absolument unique en Europe et qu'on peut voir au musée historique aussi.
C'est le parallèle qu'on peut faire, ça, avec la fameuse Zehnerglocke, ou alors ça c'est... Ce sont des idées reçues et c'est totalement faux. Alors moi, c'est ce qu'on m'avait dit. On a du mal à savoir aujourd'hui cette Zehnerglocke. Est-ce qu'elle annonçait aux Juifs de sortir de la ville alors qu'ils habitaient en ville à l'époque ?
Non, pas du tout. La Zehnerglocke est de l'ordre de la légende. Et c'est vrai que je crois que même en alsacien, on dit de Judeglocke ou un truc comme ça. Mais c'est totalement faux. C'est le Gruselhorn qui était utilisé jusqu'au moment où les Juifs ont eu la citoyenneté et donc le droit de revenir en ville. Le Gruselhorn a été utilisé.
Est-ce que quelque part, l'histoire du judaïsme, là à Strasbourg, ça trace également l'histoire de l'antisémitisme ? On pourrait faire un parallèle ?
Non, il y a des traces et on amène également les visiteurs s'en rendre compte sur la cathédrale elle-même. On l'appelait pas ça l'antisémitisme, mais l'antijudaïsme. Mmh. Et bon, l'image la plus connue et la plus caractéristique, ce sont les deux statues qui sont sur le portail sud de la cathédrale, la synagogue aux yeux bandés qui baisse la tête et qui a la lance brisée et qui tient de l'autre côté les 10 commandements. Et de l'autre côté, l'église très fière et qui toise en fait la femme qui est en face d'elle. Les originaux, je précise, sont au musée de l'œuvre Notre-Dame. Celles qui sont sur la cathédrale sont des reproductions. Elles datent du XIIIe siècle, les originaux. Voilà.
Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore des traces de la vie juive qu'on découvre, qui sont encore totalement inconnus. Vous espérez encore découvrir dans une cave ou peut-être une guénisa dans une maison qui aurait pu servir de lieu de culte. Vous espérez ça encore aujourd'hui à Strasbourg où il y a peu de chance?
Je pense que si les archéologues, c'est une question à poser à des archéologues, ouais. mais je pense que si les archéologues procèdent à des fouilles poussées du côté de la rue des Juifs, il y a des chances qu'ils trouvent peut-être quelque chose. La preuve en est que lorsqu'ils ont effectué des fouilles autour du bâtiment du 15 rue des Juifs, et c'est là qu'ils ont découvert le mikvé, qui date de l'époque médiévale, et ils ont également trouvé des objets, etc. Et d'ailleurs, il est prévu... Dans le groupe de toutes les associations qui sont hébergées au 15 rue des Juifs, dont la nôtre, de publier un livre qui raconte l'histoire de cette maison qui est en fait la plus ancienne demeure encore debout à Strasbourg, 1290, et qui appartenait à l'origine à des familles juives. Et ils ont découvert aussi, en restaurant l'immeuble, des fresques absolument incroyables qui datent du XVe siècle.
Elles sont visibles, celles-ci, dans la visite guidée, ou tout du moins en images?
En images, oui. J'avais pris des images et je les ai mises sur l'application, oui, tout à fait. Parce que ce n'est pas ouvert au public, bien évidemment.
C'est sur des visites guidées.
Même les visites sont très réglementées au nombre de personnes. Bien sûr, ce bâtiment est classé et extrêmement sensible.
17 lieux, c'est visitable, on va dire, en un après-midi. Il faut compter combien de temps pour faire le tour de ce patrimoine juif à Strasbourg?
Je pense qu'il faut deux bonnes heures, mais on peut le faire en plusieurs fois, ou on peut choisir aussi différents lieux, puisque bon, par la suite, donc lorsqu'on a dépassé la cathédrale et qu'on a passé devant les musées où on peut voir enfin des traces de la vie juive à Strasbourg, y compris le musée alsacien où il y a effectivement énormément d'objets, oui. Ce sont des objets en fait qui représentent le judaïsme rural, c'est-à-dire le judaïsme qui s'est développé en la campagne, puisque, comme je l'ai dit, les Juifs n'avaient plus le droit de résider dans les villes, pas seulement à Strasbourg, ils résidaient dans les villages. Et donc là, le musée alsacien a récupéré énormément d'objets depuis début du XXe siècle. Au moment de la création du musée alsacien, un accord s'est fait avec la Société d'histoire des Juifs d'Alsace et de Lorraine qui avait été fondée à cette époque-là. Et depuis, effectivement, le travail continue et le musée alsacien consacre une partie importante de son espace à cette spécificité de notre région.
Françoise Elkoubi, alors moi j'aimerais parler un petit peu de vous en quelques mots. Vous avez été chargée de communication pour le maire Marcel Roudloff à l'époque. Quelle est, vous, aujourd'hui, votre motivation à continuer à faire vivre ce patrimoine juif à Strasbourg, dans le bassin rhénan, plus largement, comme on en parle? C'est quoi votre motivation? Vous écrivez également pour Éco-Unir, il me semble.
Oui, tout à fait.
Vous avez envie, vous avez cette passion de transmettre. C'est quoi votre motivation?
En fait, je pense que c'est d'une part quelque chose que j'ai dans mon ADN, probablement, d'aimer transmettre, faire passer les idées, les valeurs. Je pense que on a ça en soi, quelque part. C'est un besoin d'avoir des contacts avec des personnes, de faire que les personnes se rencontrent, qu'elles puissent travailler ensemble, etc. Et particulièrement pour ce sujet-là, j'y ajouterai autre chose dans mon ADN qui est tout à fait familial, parce que j'ai baigné dans une famille qui avait pris des responsabilités importantes au niveau de la communauté juive. Mon père a été président de communauté Célestat pendant presque 30 ans, et Moi, je l'ai, pratiquement toute ma vie, je l'ai connue dans ces fonctions-là. Ma maman présidait la VISO aussi, elle était très, très active. Et puis, en remontant plus loin, ben, il se trouve que, là, tout à l'heure, en passant devant les vitrines, l'une consacrée au rabbin d'Alsace, la première personne en arrivant, c'est Salomon Ullmann. Et Salomon Ullmann a été grand rabbin de France. Et c'était le frère de mon arrière-arrière-grand-mère.
Donc l'engagement dans la famille, en fait.
Voilà. On montrait la semaine dernière une photo de la synagogue de Lauterbourg qui avait été détruite par les nazis, dont je n'avais jamais vu de photo. Ma maman est originaire de Lauterbourg. J'ai découvert dans un livre que mon grand-père avait été pendant 10 ans président de la communauté. Donc vous voyez, c'est...
Bon. Ouais, vous parlez d'ADN, en fait, c'est totalement ça. C'est inscrit dans vos gènes.
Tout à fait.
C'est votre transmission à vous, que vous avez reçue et que vous continuez à faire vivre aujourd'hui.
Donc quelque part, si vous voulez, j'applique à ce que j'aime faire et je le fais avec passion, ce qui relève de tout ce qui est le judaïsme et spécifiquement dans cette vallée rhénane. Et donc ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que notre route, en fait, elle va des villes du Choum, Worms, Mayence et Spire, jusqu'à Bâle. Et donc avec le côté germanique, je dirais, et puis le côté alsacien. Et maintenant, Luxembourg aussi a rejoint notre association. Une association s'est constituée à Luxembourg et qui a rejoint aussi l'association.
On aura l'occasion, évidemment, de parler d'autres choses que vous mettez en place avec les routes du judaïsme rhénan. Là, vous êtes venu spécifiquement nous parler de ces visites guidées, audio-guidées, totalement en autonomie, hein, grâce à la plateforme de visite en ligne Easy Travel. Comment ça fonctionne, juste en un mot, on va finir cette interview, pour les auditeurs qui nous entendent et qui aimeraient faire ce circuit? Ils vont sur Easy Travel?
Voilà, il faut télécharger l'application Easy Travel, EZI Travel, TRAVEL, et ensuite chercher l'application qui s'appelle, enfin le circuit qui s'appelle la ville juive à Strasbourg du Moyen-Âge à nos jours. Et à ce moment-là, on peut même le regarder chez soi, sur son ordinateur. C'est d'ailleurs, j'ai eu un retour comme cela de professeurs qui disaient, c'est très bien parce que je vais pouvoir travailler avec mes élèves directement dans la classe. Donc vous voyez, ça a encore une autre fonction que simplement visite touristique. Et on s'adresse à la fois aux habitants de Strasbourg, de la région, aux visiteurs français et internationaux, comme il y en a tant à Strasbourg.
C'est vrai qu'on n'est pas obligé forcément d'être sur place. Voilà. Et ça permet aussi aux personnes du monde entier qui ont une nostalgie ou un intérêt pour la ville de Strasbourg de faire cette visite virtuelle. Françoise Elkoubi, merci infiniment d'être passée nous voir. Et puis j'espère qu'on aura d'autres occasions de se voir pour parler des choses que vous mettez en place. En tous les cas, merci. Et puis à très bientôt.
Merci à vous, merci de m'avoir invité.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.